This is the Advanced Level French Listening Comprehension, October-November 2025. Instructions. Answer all questions in French. Use a black or dark blue pen. Do not use an erasable pen or correction fluid. Write your name, center number, and candidate number in the boxes at the top of the page. Write your answer to each question in the space provided. Do not write on any barcodes. Dictionaries are not allowed. There are instructions about how to answer the questions above each exercise on the question paper. You need not write in full sentences. Before each recorded item is played, time is allowed for reading the instructions and studying the questions. All items are heard more than once, and some are divided into sections. This is made clear at the beginning of each exercise. You may take notes and write your answers at any time during the test. A signal is used to introduce each item. Information. The total mark for this paper is 50. The number of marks for each question or part question is shown in brackets. Turn to page 2 now.
Section 1. Dans la première section, vous entendrez deux extraits. Vous entendrez chaque extrait une fois, et puis, après une pause de courte durée, une deuxième fois, suivie d'une pause plus longue pour écrire vos réponses aux questions. À la fin de la section, vous aurez 3 minutes pour vérifier votre travail. Premier extrait. Vous allez entendre un reportage « Pourquoi les maires quittent leur poste ?» Indiquez si les phrases suivantes sont vraies ou fausses en cochant la case appropriée. Vous avez d'abord quelques secondes pour lire les phrases.
On a besoin de maires. Ils sont le meilleur exemple de la démocratie locale. Néanmoins, le fait que de plus en plus de maires démissionnent est devenu un problème national. Le ministère de l'Intérieur indique qu'en 2 ans, il y a eu plus de 800 démissions de maires en France. La première raison pour laquelle ils jettent l'éponge, c'est que, quand ils deviennent maires, ils ne comprennent pas la réalité du poste. D'abord, le salaire. Le maire d'une petite commune reçoit seulement 700 euros par mois. Il est donc obligé d'avoir un travail à côté, une situation intenable pour beaucoup. Les problèmes de santé sont fréquents. De la même manière qu'on respecte beaucoup moins les professeurs, on respecte aujourd'hui beaucoup moins le maire. C'est le rapport à l'autorité qui change. Dans ces rôles, il faut aimer les gens. Il faut aussi être prêt à se faire insulter. Cela demande du courage et beaucoup d'humilité. Les maires sont touchés par ces changements. besoin de maires. Ils sont le meilleur exemple de la démocratie locale. Néanmoins, le fait que de plus en plus de maires démissionnent est devenu un problème national. Le ministère de l'Intérieur indique qu'en 2 ans, il y a eu plus de 800 démissions de maires en France. La première raison pour laquelle ils jettent l'éponge, c'est que, quand ils deviennent maires, ils ne comprennent pas la réalité du poste. D'abord, le salaire. Le maire d'une petite commune reçoit seulement 700 euros par mois. Il est donc obligé d'avoir un travail à côté, une situation intenable pour beaucoup. Les problèmes de santé sont fréquents. De la même manière qu'on respecte beaucoup moins les professeurs, on respecte aujourd'hui beaucoup moins le maire. C'est le rapport à l'autorité qui change. Dans ces rôles, il faut aimer les gens. Il faut aussi être prêt à se faire insulter. Cela demande du courage et beaucoup d'humilité. Les maires sont touchés par ces changements.
Deuxième extrait. Vous allez entendre un reportage sur les médecins volants à Nevers. Complétez le résumé ci-dessous selon ce que vous entendez dans l'enregistrement. Vous avez d'abord quelques secondes pour étudier le résumé.
Il manque beaucoup de spécialistes à l'hôpital de Nevers. La solution à cette pénurie? L'arrivée en avion des premiers médecins volants de Dijon, la capitale régionale. 8 médecins et spécialistes sont arrivés jeudi matin à l'aéroport de Nevers avant de rejoindre l'hôpital de la ville. Ils doivent retourner à Dijon en avion dans la soirée. Ce vol hebdomadaire va relier Nevers à Dijon en 35 minutes, contre près de 3 heures en voiture ou 2 heures et demie en train. En avion, le prix aller-retour par passager est un tiers du salaire d'un médecin remplaçant pour une journée de travail. La mesure a cependant suscité de vives critiques de la part des écologistes. Pour la ville de Nevers, par contre, cette solution répond aux besoins de la population et c'est bien gagnant-gagnant. Il manque beaucoup de spécialistes à l'hôpital de Nevers. La solution à cette pénurie? L'arrivée en avion des premiers médecins volants de Dijon, la capitale régionale. 8 médecins et spécialistes sont arrivés jeudi matin à l'aéroport de Nevers avant de rejoindre l'hôpital de la ville. Ils doivent retourner à Dijon en avion dans la soirée. Ce vol hebdomadaire va relier Nevers à Dijon en 35 minutes, contre près de 3 heures en voiture ou 2 heures et demie en train. En avion, le prix aller-retour par passager est un tiers du salaire d'un médecin remplaçant pour une journée de travail. La mesure a cependant suscité de vives critiques de la part des écologistes. Pour la ville de Nevers, par contre, cette solution répond aux besoins de la population et c'est bien gagnant-gagnant.
Vous avez maintenant 3 minutes pour vérifier votre travail. Section 2. Dans la deuxième section, vous entendrez deux entretiens. Vous entendrez chaque entretien une fois, et puis, après une pause de 2 minutes, une deuxième fois en 2 parties. Ensuite, vous entendrez l'entretien une troisième fois en 2 parties, suivi d'une pause de 2 minutes pour réviser votre travail. À la fin de la section, vous aurez 5 minutes pour vérifier votre travail. Premier entretien. Vous allez entendre un entretien avec Pierre Martin au sujet de son documentaire « Notre avenir ». Lisez d'abord attentivement les questions. Vous devez y répondre en français.
Alors que Pierre Martin est un architecte diplômé, il s'est appliqué à réaliser son premier film documentaire, qui s'appelle « Notre avenir ». Pierre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce documentaire ?
Ce qui m'intéresse dans « Notre avenir », c'est le doute que les jeunes diplômés ressentent face à leur avenir. Ils veulent réussir, mais ils veulent surtout se sentir utiles, à travers un métier en accord avec leurs convictions. Je voulais explorer ce sentiment de doute chez les diplômés. Beaucoup d'entre eux remettent en question un système économique dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Face à l'urgence écologique et sociale, de plus en plus de diplômés décident de faire tout leur possible pour avoir un impact positif sur le monde, même si cela entraîne des difficultés financières.
Que cherchent les jeunes diplômés ?
La nouvelle génération veut mettre son énergie et ses compétences dans des organisations qui, non seulement contribuent au bien commun de tous, mais qui sont également soucieuses du bien-être de leurs employés au travail.
Dirais-tu qu'il y a une incompréhension entre les générations ?
En effet, on peut dire qu'il y a un décalage générationnel que j'ai souhaité explorer à travers ce documentaire. Puis, j'ai compris que c'était pour mes parents que je faisais ce film, pour leur parler et communiquer avec eux. J'avais besoin de leur montrer que je n'étais pas seul dans cette situation et que d'autres jeunes partageaient mes valeurs.
Le documentaire a été projeté devant des chefs d'entreprise ?
Oui, à leur demande d'ailleurs. On a fait une projection à Paris devant 250 dirigeants récemment. Ils sont venus vers nous parce qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter. Ils nous ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes ?»
Raconte un peu ce qui est arrivé aux diplômés dans ton film.
Tous les diplômés avaient un destin bien tracé. Job de rêve, voiture de fonction et beau salaire. Mais tous ont, en l'espace d'un an, rompu avec cette voie qui leur était promise. Élise, par exemple, travaille pour un petit cabinet qui conseille les entreprises énergétiques sur la transition écologique.
Pour bâtir sa carrière, elle aurait dû travailler dans une grande entreprise.
Oui, c'est ce qu'aurait voulu son père. Mais du coup, il a arrêté de lui parler. Ça a été mon point de départ. J'ai eu besoin de filmer ça. Tourner le dos à une carrière prometteuse, c'est-à-dire un gros salaire, une voiture de fonction.
Et les autres diplômés ?
Henri, diplômé d'une grande école de commerce, a travaillé un an dans la finance internationale avant de démissionner. Son boulot n'avait plus aucun sens pour lui. Il s'est lancé dans la confection de confitures. Angélique a également été salariée un an avant de tout quitter pour s'engager politiquement aux élections municipales en Bretagne.
Il n'y a donc pas de voie idéale pour inventer une vie plus en accord avec ses priorités ?
Non. Quand on sort d'un chemin tout tracé, il n'y a pas d'alternative toute préparée. Certains diplômés choisissent de travailler à leur compte, d'autres dans une association caritative. D'autres, enfin, décident malgré tout de travailler dans une grande entreprise avec l'intention de la transformer de l'intérieur. Bref, il n'y a pas de règles. Il faut réinventer sa place dans la société.
Alors que Pierre Martin est un architecte diplômé, il s'est appliqué à réaliser son premier film documentaire, qui s'appelle « Notre avenir ». Pierre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce documentaire ?
Ce qui m'intéresse dans « Notre avenir », c'est le doute que les jeunes diplômés ressentent face à leur avenir. Ils veulent réussir, mais ils veulent surtout se sentir utiles, à travers un métier en accord avec leurs convictions. Je voulais explorer ce sentiment de doute chez les diplômés. Beaucoup d'entre eux remettent en question un système économique dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Face à l'urgence écologique et sociale, de plus en plus de diplômés décident de faire tout leur possible pour avoir un impact positif sur le monde, même si cela entraîne des difficultés financières.
Que cherchent les jeunes diplômés ?
La nouvelle génération veut mettre son énergie et ses compétences dans des organisations qui, non seulement contribuent au bien commun de tous, mais qui sont également soucieuses du bien-être de leurs employés au travail.
Dirais-tu qu'il y a une incompréhension entre les générations ?
En effet, on peut dire qu'il y a un décalage générationnel que j'ai souhaité explorer à travers ce documentaire. Puis, j'ai compris que c'était pour mes parents que je faisais ce film, pour leur parler et communiquer avec eux. J'avais besoin de leur montrer que je n'étais pas seul dans cette situation et que d'autres jeunes partageaient mes valeurs.
Le documentaire a été projeté devant des chefs d'entreprise ?
Oui, à leur demande d'ailleurs. On a fait une projection à Paris devant 250 dirigeants récemment. Ils sont venus vers nous parce qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter. Ils nous ont demandé : mais qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes ?
Raconte un peu ce qui est arrivé aux diplômés dans ton film.
Tous les diplômés avaient un destin bien tracé. Job de rêve, voiture de fonction et beau salaire. Mais tous ont, en l'espace d'un an, rompu avec cette voie qui leur était promise. Élise, par exemple, travaille pour un petit cabinet qui conseille les entreprises énergétiques sur la transition écologique.
Pour bâtir sa carrière, elle aurait dû travailler dans une grande entreprise.
Oui, c'est ce qu'aurait voulu son père. Mais du coup, il a arrêté de lui parler. Ça a été mon point de départ. J'ai eu besoin de filmer ça. Tourner le dos à une carrière prometteuse, c'est-à-dire un gros salaire, une voiture de fonction.
Et les autres diplômés ?
Henri, diplômé d'une grande école de commerce, a travaillé un an dans la finance internationale avant de démissionner. Son boulot n'avait plus aucun sens pour lui. Il s'est lancé dans la confection de confitures. Angélique a également été salariée un an avant de tout quitter pour s'engager politiquement aux élections municipales en Bretagne.
Il n'y a donc pas de voie idéale pour inventer une vie plus en accord avec ses priorités ?
Non. Quand on sort d'un chemin tout tracé, il n'y a pas d'alternative toute préparée. Certains diplômés choisissent de travailler à leur compte, d'autres dans une association caritative. D'autres, enfin, décident malgré tout de travailler dans une grande entreprise avec l'intention de la transformer de l'intérieur. Bref, il n'y a pas de règles. Il faut réinventer sa place dans la société.
Alors que Pierre Martin est un architecte diplômé, il s'est appliqué à réaliser son premier film documentaire, qui s'appelle « Notre avenir ». Pierre, qu'est-ce qui t'a amené à faire ce documentaire ?
Ce qui m'intéresse dans « Notre avenir », c'est le doute que les jeunes diplômés ressentent face à leur avenir. Ils veulent réussir, mais ils veulent surtout se sentir utiles, à travers un métier en accord avec leurs convictions. Je voulais explorer ce sentiment de doute chez les diplômés. Beaucoup d'entre eux remettent en question un système économique dans lequel ils ne se reconnaissent plus. Face à l'urgence écologique et sociale, de plus en plus de diplômés décident de faire tout leur possible pour avoir un impact positif sur le monde, même si cela entraîne des difficultés financières.
Que cherchent les jeunes diplômés ?
La nouvelle génération veut mettre son énergie et ses compétences dans des organisations qui, non seulement contribuent au bien commun de tous, mais qui sont également soucieuses du bien-être de leurs employés au travail.
Dirais-tu qu'il y a une incompréhension entre les générations?
En effet, on peut dire qu'il y a un décalage générationnel que j'ai souhaité explorer à travers ce documentaire. Puis, j'ai compris que c'était pour mes parents que je faisais ce film, pour leur parler et communiquer avec eux. J'avais besoin de leur montrer que je n'étais pas seul dans cette situation et que d'autres jeunes partageaient mes valeurs.
Le documentaire a été projeté devant des chefs d'entreprise?
Oui, à leur demande d'ailleurs. On a fait une projection à Paris devant 250 dirigeants récemment. Ils sont venus vers nous parce qu'ils ont de plus en plus de mal à recruter. Ils nous ont demandé « Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour attirer les jeunes ?»
Raconte un peu ce qui est arrivé aux diplômés dans ton film.
Tous les diplômés avaient un destin bien tracé. Job de rêve, voiture de fonction et beau salaire. Mais tous ont, en l'espace d'un an, rompu avec cette voie qui leur était promise. Élise, par exemple, travaille pour un petit cabinet qui conseille les entreprises énergétiques sur la transition écologique.
Pour bâtir sa carrière, elle aurait dû travailler dans une grande entreprise.
Oui, c'est ce qu'aurait voulu son père. Mais du coup, il a arrêté de lui parler. Ça a été mon point de départ. J'ai eu besoin de filmer ça. Tourner le dos à une carrière prometteuse, c'est-à-dire un gros salaire, une voiture de fonction.
Et les autres diplômés?
Henri, diplômé d'une grande école de commerce, a travaillé un an dans la finance internationale avant de démissionner. Son boulot n'avait plus aucun sens pour lui. Il s'est lancé dans la confection de confitures. Angélique a également été salariée un an avant de tout quitter pour s'engager politiquement aux élections municipales en Bretagne.
Il n'y a donc pas de voie idéale pour inventer une vie plus en accord avec ses priorités?
Non. Quand on sort d'un chemin tout tracé, il n'y a pas d'alternative toute préparée. Certains diplômés choisissent de travailler à leur compte, d'autres dans une association caritative. D'autres, enfin, décident malgré tout de travailler dans une grande entreprise avec l'intention de la transformer de l'intérieur. Bref, il n'y a pas de règle. Il faut réinventer sa place dans la société. Deuxième entretien. Vous allez entendre un entretien avec Florence Sénéchal, porte-parole de l'association Emmaüs. Lisez d'abord attentivement les questions. Vous devez y répondre en français. Les vêtements qu'on ne porte plus ont toujours posé problème. Sachez que les Français ne portent que 30% de leur garde-robe. Avant, on n'hésitait pas à donner ces vieux vêtements à une association caritative comme Emmaüs. Florence Sénéchal est la porte-parole de l'association. Emmaüs est l'un des pionniers de la seconde main en France. Que représente la seconde main pour Emmaüs en termes de ressources et d'emploi?
La seconde main représente environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La récupération de produits d'occasion offre une chance de se réintégrer dans la société à ceux qui étaient auparavant sans domicile fixe. Elle fournit du travail à 15 000 SDF en France.
Emmaüs a également toujours été engagée en faveur de l'environnement, n'est-ce pas?
Nous avons un rôle de prévention des déchets. Comme le montre notre slogan, une seconde vie pour les objets, une seconde chance pour les personnes. Nous collectons des articles que nous trions, réparons et revendons.
Vos donateurs sont toujours aussi actifs?
Hélas, de nombreux Français choisissent désormais de revendre leurs vêtements sur les plateformes de seconde main plutôt que de les donner à des associations.
Pourquoi les consommateurs préfèrent-ils vendre sur ces plateformes de nos jours?
Alors, ces plateformes ont lancé d'énormes campagnes de pub sur les réseaux sociaux. Il y a des consommateurs qui ont besoin de vendre pour se faire de l'argent à cause du coût de la vie qui a beaucoup augmenté. Par ailleurs, on trouve des addicts de la mode qui n'arrêtent pas d'acheter et de revendre. Emmaüs vient de lancer une campagne adressée aux usagers de ces plateformes pour sensibiliser les jeunes qui méconnaissent l'association. Elle a publié une formule sur les sites web « Tu ne le portes pas, donne-le ». Notre campagne est là pour dire aux citoyens « Attention, le geste que vous faites n'est pas neutre. Vous participez à une chaîne de solidarité pour sortir des personnes de la précarité. »
Le modèle d'Emmaüs est-il menacé?
Il subit des tensions fortes. Depuis une dizaine d'années, le marché de seconde main explose. Des plateformes avec des moyens démesurés par rapport aux nôtres viennent nous concurrencer.
Est-ce qu'il y a également un impact sur les dons?
On a constaté que la qualité des dons que nous collectons baisse. Les gens donnent à Emmaüs ce qu'ils ne parviennent pas à vendre sur les plateformes. Nous ne pouvons plus vendre que 40% de ce que nous collectons, contre 60% il y a 20 ans. Ce qui reste part au recyclage ou aux déchets et ne nous rapporte rien. Les dons progressent car les gens consomment davantage de produits de mauvaise qualité. Ils les vendent de plus en plus et nous donnent le reste. Quant à l'avenir, c'est inquiétant.
Certaines personnes revendent leurs vêtements aussi pour survivre jusqu'à la fin du mois. Vous n'hésitez pas à leur demander de renoncer à cet argent?
Si, bien évidemment. Je ne critique pas ceux qui le font pour se nourrir ou payer leurs factures. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est également un combat mené par Emmaüs. Et il n'est absolument pas normal que des gens soient obligés de vendre leurs t-shirts pour pouvoir survivre jusqu'à la fin du mois.
Les vêtements qu'on ne porte plus ont toujours posé problème. Sachez que les Français ne portent que 30% de leur garde-robe. Avant, on n'hésitait pas à donner ces vieux vêtements à une association caritative comme Emmaüs. Florence Sénéchal est la porte-parole de l'association. Emmaüs est l'un des pionniers de la seconde main en France. Que représente la seconde main pour Emmaüs en termes de ressources et d'emploi?
La seconde main représente environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La récupération de produits d'occasion offre une chance de se réintégrer dans la société à ceux qui étaient auparavant sans domicile fixe. Elle fournit du travail à 15 000 SDF en France.
Emmaüs a également toujours été engagé en faveur de l'environnement, n'est-ce pas?
Nous avons un rôle de prévention des déchets. Comme le montre notre slogan, une seconde vie pour les objets, une seconde chance pour les personnes. Nous collectons des articles que nous trions, réparons et revendons.
Vos donateurs sont toujours aussi actifs?
Hélas, de nombreux Français choisissent désormais de revendre leurs vêtements sur les plateformes de seconde main plutôt que de les donner à des associations.
Pourquoi les consommateurs préfèrent-ils vendre sur ces plateformes de nos jours?
Alors, ces plateformes ont lancé d'énormes campagnes de pub sur les réseaux sociaux. Il y a des consommateurs qui ont besoin de vendre pour se faire de l'argent à cause du coût de la vie qui a beaucoup augmenté. Par ailleurs, on trouve des addicts de la mode qui n'arrêtent pas d'acheter et de revendre. Emmaüs vient de lancer une campagne adressée aux usagers de ces plateformes pour sensibiliser les jeunes qui méconnaissent l'association. Elle a publié une formule sur les sites web « Tu ne le portes pas, donne-le ». Notre campagne est là pour dire aux citoyens « Attention, le geste que vous faites n'est pas neutre. Vous participez à une chaîne de solidarité pour sortir des personnes de la précarité. »
Le modèle d'Emmaüs est-il menacé?
Il subit des tensions fortes. Depuis une dizaine d'années, le marché de seconde main explose. Des plateformes avec des moyens démesurés par rapport aux nôtres viennent nous concurrencer.
Est-ce qu'il y a également un impact sur les dons?
On a constaté que la qualité des dons que nous collectons baisse. Les gens donnent à Emmaüs ce qu'ils ne parviennent pas à vendre sur les plateformes. Nous ne pouvons plus vendre que 40% de ce que nous collectons, contre 60% il y a 20 ans. Ce qui reste part au recyclage ou aux déchets et ne nous rapporte rien. Les dons progressent car les gens consomment davantage de produits de mauvaise qualité. Ils les vendent de plus en plus et nous donnent le reste. Quant à l'avenir, c'est inquiétant.
Certaines personnes revendent leurs vêtements aussi pour survivre jusqu'à la fin du mois. Vous n'hésitez pas à leur demander de renoncer à cet argent?
Si, bien évidemment. Je ne critique pas ceux qui le font pour se nourrir ou payer leurs factures. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est également un combat mené par Emmaüs. Et il n'est absolument pas normal que des gens soient obligés de vendre leurs t-shirts pour pouvoir survivre jusqu'à la fin du mois.
Les vêtements qu'on ne porte plus ont toujours posé problème. Sachez que les Français ne portent que 30% de leur garde-robe. Avant, on n'hésitait pas à donner ces vieux vêtements à une association caritative comme Emmaüs. Florence Sénéchal est la porte-parole de l'association. Emmaüs est l'un des pionniers de la seconde main en France. Que représente la seconde main pour Emmaüs en termes de ressources et d'emplois?
La seconde main représente environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. La récupération de produits d'occasion offre une chance de se réintégrer dans la société à ceux qui était auparavant sans domicile fixe. Elle fournit du travail à 15 000 SDF en France.
Emmaüs a également toujours été engagée en faveur de l'environnement, n'est-ce pas?
Nous avons un rôle de prévention des déchets. Comme le montre notre slogan, une seconde vie pour les objets, une seconde chance pour les personnes. Nous collectons des articles que nous trions, réparons et revendons.
Vos donateurs sont toujours aussi actifs?
Hélas, de nombreux Français choisissent désormais de revendre leurs vêtements sur les plateformes de seconde main plutôt que de les donner à des associations.
Pourquoi les consommateurs préfèrent-ils vendre sur ces plateformes de nos jours?
Alors, ces plateformes ont lancé d'énormes campagnes de pub sur les réseaux sociaux. Il y a des consommateurs qui ont besoin de vendre pour se faire de l'argent à cause du coût de la vie qui a beaucoup augmenté. Par ailleurs, on trouve des addicts de la mode qui n'arrêtent pas d'acheter et de revendre. Emmaüs vient de lancer une campagne adressée aux usagers de ces plateformes pour sensibiliser les jeunes qui méconnaissent l'association. Elle a publié une formule sur les sites web « Tu ne le portes pas, donne-le ». Notre campagne est là pour dire aux citoyens « Attention, le geste que vous faites n'est pas neutre. Vous participez à une chaîne de solidarité pour sortir des personnes de la précarité. »
Le modèle d'Emmaüs est-il menacé?
Il subit des tensions fortes. Depuis une dizaine d'années, le marché de seconde main explose. Des plateformes avec des moyens démesurés par rapport aux nôtres viennent nous concurrencer.
Est-ce qu'il y a également un impact sur les dons?
On a constaté que la qualité des dons que nous collectons baisse. Les gens donnent à Emmaüs ce qu'ils ne parviennent pas à vendre sur les plateformes. Nous ne pouvons plus vendre que 40% de ce que nous collectons, contre 60% il y a 20 ans. Ce qui reste part au recyclage ou aux déchets et ne nous rapporte rien. Les dons progressent car les gens consomment davantage de produits de mauvaise qualité. Ils les vendent de plus en plus et nous donnent le reste. Quant à l'avenir, c'est inquiétant.
Certaines personnes revendent leurs vêtements aussi pour survivre jusqu'à la fin du mois. Vous n'hésitez pas à leur demander de renoncer à cet argent?
Si, bien évidemment. Je ne critique pas ceux qui le font pour se nourrir ou payer leurs factures. La lutte contre la pauvreté et les inégalités est également un combat mené par Emmaüs. Et il n'est absolument pas normal que des gens soient obligés de vendre leurs t-shirts pour pouvoir survivre jusqu'à la fin du mois.
Vous avez maintenant 5 minutes pour vérifier votre travail.
This is the end of the examination.